chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce dernier épisode de 2025 du balado Savoir et Stéthoscope. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va faire écho à un éditorial de notre président de l'OIQ, M. Luc Mathieu, à l'automne 2024 concernant le sujet de l'humanisme. À l'effet que l'humanisme, c'est une composante de la compétence infirmière, mais aussi c'est une valeur de la profession infirmière. Donc, on accueille en studio avec nous aujourd'hui pour parler d'humanisation des soins, Mme Marie-Claude Poulin et Marie-Pierre Labbé. Alors, Mme Poulin, qui est proche aidante et qui a une expertise aussi en humanisation des soins, services et pratiques de gestion. Alors, Mme Poulin est proche aidante auprès de sa mère, qui est atteinte d'Alzheimer depuis une dizaine d'années. Elles ont ensemble fait le parcours là, allant de la résidence pour personnes âgées jusqu'à la résidence pour personnes semi-autonomes et finalement les ressources intermédiaires pour finir CHSLD, puis Maison des aînés. Elle est retraitée du réseau de la santé depuis 2019 et impliquée depuis plus de 15 ans au sein d'un organisme qui est dédié à l'humanisation des soins et services.
On accueille également Marie-Pierre Labbé, qui est infirmière depuis 27 ans et près de 6 ans comme conseillère en soins infirmiers à la DSI. Elle souhaite nous partager son expérience, son parcours de la déshumanisation vers l'humanisation des soins. Elle a complété également en 2021 un micro-programme de deuxième cycle à l'Université de Sherbrooke sur l'intégration de la pleine conscience en milieu clinique. Bienvenue avec nous, mesdames.
Bonjour.
Allô tout le monde.
Savoir et stéthoscope, ça commence maintenant.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
En cohérence avec le sujet balado d'aujourd'hui portant sur l'humanisation des soins, notre établissement a mis en place un groupe de travail transversal afin de développer un encadrement clair et cohérent des auto-soins. Les auto-soins se définissent brièvement comme l'ensemble des actions et décisions qu'une personne pose pour maintenir ou améliorer sa santé. Donc, ça inclut autant le volet curatif que préventif de la santé. Pour gérer ses symptômes et contribuer activement à son traitement, avec l'accompagnement approprié des professionnels et autres intervenants. Ce groupe réunira plusieurs acteurs clés, dont des usagers et des personnes proches aidantes, afin que les outils et les pratiques développées soient réellement adaptés aux besoins et aux réalités du terrain et de la population. Ce chantier de travail visera à soutenir la qualité, la sécurité et l'accessibilité des auto-soins dans une perspective authentique de partenariat avec l'usager et ses proches, au cœur même de l'humanisation des soins.
Donc, vous savez, à chaque année, on a le protecteur du citoyen qui nous rappelle que les services publics ont pour mission de respecter les droits des citoyens et d'améliorer continuellement nos soins et services. Et dans ces deux derniers rapports, là, celui de 2023-2024, puis le tout dernier là, qui vient de sortir 2024-2025, il y a une certaine préoccupation du protecteur qui revient beaucoup, puis c'est la dépersonnalisation de nos soins, qui va être causée, entre autres, par la pression qui va être mise beaucoup sur la performance, le manque de personnel, puis une certaine baisse d'empathie aussi. Ces constats-là, ça l'interpelle autant les proches aidants que les professionnels et les autres intervenants de la santé. Et le protecteur insiste vraiment sur la nécessité que les services publics soient recentrés sur les besoins de la population, des individus, puis en particulier dans le domaine de la santé. Puis il va souligner aussi l'importance de l'écoute réelle, de la transparence, du respect notamment des personnes proches aidantes dans un éditorial qui a intitulé « Placer le citoyen au cœur de toute communication ».
C'est dans ce contexte que nous vous proposons une rencontre humaine et sensible entre deux voix, soit celle de nos invités, une proche aidante et l'autre infirmière clinicienne. À travers leurs regards croisés, nous explorerons ce que ces constats évoquent dans leur quotidien. Nous parlerons de souffrance, de résilience, de sens et surtout de l'humanisation des soins.
Donc, on vient l'introduire brièvement là, avec le contexte protecteur du citoyen. Et là, on va aller vraiment à la rencontre de nos invités, donc Marie-Pierre et Marie-Claude, pour explorer qu'est-ce que ça évoque pour eux dans leur quotidien, ces constats-là. Donc, si je commence avec vous, Marie-Claude, là, à titre de personne proche aidante, comment ces constats-là résonnent dans votre expérience personnelle?
Dans mon expérience à moi, je pourrais pas dire que ce que j'ai constaté, c'est de la déshumanisation. Ce que moi, je constate, c'est plus que la personnalisation des soins puis des services varie en fonction des individus. C'est vraiment ça, ça dépend des soignants, ça dépend des gestionnaires qui sont en présence, puis ça dépend même des directions d'établissement. C'est là la différence, en fait. Ce que moi, je sens, c'est plus une initiative qui vient des gens eux-mêmes plutôt que des cultures.
Est-ce que ces appels-là à plus d'humanité dans les soins rejoignent les défis que vous rencontrez là, comme personne proche aidante?
Oui. C'est sûr que pour moi, le principal défi, ça tourne tout autour de la relation. Dans le fond, c'est la relation que j'arrive à établir avec ma mère qui fait toute la différence. Ma mère est à un stade où, dans le fond, cette relation-là, ça se passe dans le prendre soin. Mais pour que je puisse prendre soin de ma mère, il faut que j'aie des liens avec les soignants puis avec le personnel autour. Fait que de là, toute la notion d'humanité.
C'est quoi les principaux défis, justement, que vous rencontrez en lien avec ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que de créer ce lien-là, dans le fond, peut être difficile par moment?
Tu sais, le personnel change beaucoup, par exemple. Fait que ça rend les choses difficiles. Ce qui peut rendre les choses difficiles aussi, c'est d'être tenu à l'écart des fois aussi de comment les choses se passent. D'être toujours en situation où c'est toi qui dois chercher à comprendre comment ça se passe. Il y a beaucoup de ça qui fait en sorte que ça devient des défis. Il y a des défis au quotidien. Le premier défi, des fois, c'est de trouver le chemin pour établir cette relation-là dans une structure qui est très compartimentée. Puis, ce qui fait que il faut savoir c'est quoi le rôle, par exemple, des préposés, puis c'est quoi le rôle des infirmières auxiliaires, puis c'est quoi le rôle de l'infirmière, puis ainsi de suite. À un moment donné, tu sais, les choses sont souvent compartimentées. Fait que trouver le chemin. Des fois, c'est difficile. La confiance aussi, la complicité à développer, puis là, avec un personnel qui change souvent. C'est aussi de passer, moi, j'appelle ça du transactionnel au relationnel, là. Dans le sens, un exemple assez concret de ça, c'est les rencontres multi, où on parle, dans le fond, qui servent à parler des besoins de la personne, parler des besoins de ma mère, mais... Moi, je me retrouve dans une rencontre avec des gens que je connais pas ou à peu près pas, puis des gens que je reverrai probablement pas ou peu après. Puis c'est dans ce contexte-là qu'on me demande c'est quoi les besoins de ma mère. Mais c'est pas facile de parler de ça avec des gens que tu connais pas puis que tu reverras pas non plus après ou à peu près pas.
C'est comme de vous mettre là, comme proche aidant dans une situation de grande vulnérabilité où on vous demande de comme vous confier puis de donner des informations. Donc ça doit vraiment pas être évident là, tu sais, de...
La façon dont ça se passe, c'est presque pas même, c'est comme si tu devais arriver avec ta liste d'épicerie. On dit, OK, vous allez avoir la rencontre multi, on vous invite à réfléchir aux attentes, aux besoins. Puis là, tu arrives avec ta liste d'attentes puis de besoins, puis là, on les passe un par un, puis c'est comme ça qu'on fait le tour. Puis pour moi, ben ça, c'est pas un échange. T'sais, ça, c'est vraiment quelque chose de bien transactionnel. Là. C'est pareil comme si j'étais au magasin puis que j'arrivais avec ma liste d'épicerie. Puis par la suite, ben la façon dont les choses se passent souvent, c'est que on fait comme cocher. OK, vous avez demandé ça. OK, on l'a fait cocher. Puis ça humanise pas les choses vraiment. C'est ça qui rend les choses difficiles. Puis l'autre chose aussi, puis dans la condition de ma mère, c'est de moi me définir un rôle dans un contexte de prise en charge totale. Tu sais, en fait, là, je serais pas là, puis ça serait la même chose, parce que tout est pris en charge. Mais si tout est pris en charge, puis que moi, je suis la proche aidante, je suis l'aidante de qui?
Donc, c'est peut-être qu'est-ce qu'on a pris la peine de vous demander qu'est-ce que vous étiez prête à faire? C'est quoi vos limites? Parce que vous avez aussi le droit d'avoir vos limites. Mais peut-être qu'il y a un bon bout de chemin que vous êtes que vous voulez prendre en charge, que vous voulez aider, mais est-ce qu'on prend la peine de vous le demander?
Oui, comment voyez-vous votre place dans tout ça?
C'est quoi votre place? Est-ce qu'on vous le demande?
Non, ce n'est pas une question qu'on pose. Pas plus qu'on explore la relation qui est déjà là, puis qu'on a... C'est quoi la relation que vous avez, le lien que vous entretenez avec votre mère, puis comment vous voulez perpétuer ça, faire vivre ça dans ce nouveau milieu d'hébergement? Il n'y a pas de question là-dessus.
Non. Puis, bien, je vous remercie d'abord beaucoup, Marie-Claude, pour ce partage-là. Hein. C'est quand même profond, les échanges qui ont lieu présentement. Puis, toi, Marie-Pierre, là, en tant qu'infirmière clinicienne, comment est-ce que tu accueilles ça, ce témoignage-là, puis ces constats-là, finalement, de Mme Poulin?
Ça ne me surprend pas. Ça me touche énormément qu'encore aujourd'hui, tu sais, en 2025, il y a encore cet écart-là entre les professionnels en soins, l'usager, puis le proche aidant. Puis, en même temps, je veux pas excuser, c'est pas ça mon objectif. Je veux normaliser, mais normaliser dans le but de conscientiser qu'il y a une autre façon de faire, puis d'essayer de comprendre pourquoi que dans une rencontre multi, bien, on demande au proche aidant d'arriver avec une liste de besoins. Comment les rencontres multidisciplinaires, ils ont eux aussi une liste de tâches à accomplir sans mettre au départ cette relation de confiance-là. Puis, malheureusement, j'arrive à comprendre les professionnels parce que j'ai été ce professionnel-là qui était avec cette liste de tâches, qui était dans une efficacité ou performance, mais ça me touche beaucoup. Puis je souhaite pouvoir aider dans ce balado une prise de conscience professionnelle avec l'impact de Marie-Claude dans son partage, puis du mien. Donc, parce que il y a une certaine époque dans ma vie, j'ai jonglé avec plusieurs balles.
Oui, bien, t'es-tu à l'aise de nous en parler, Marie-Pierre?
Oui, effectivement, parce que je pense qu'il faut oser la vulnérabilité pour parler de l'humanisation des soins. Sinon, bien, on ne parle pas entre deux humains, qu'il y a des émotions, qu'il y a des pensées. Puis cette vulnérabilité, bien, oui, il y a une période dans ma vie où est-ce que je reprends, tu sais, l'image d'un jongleur, bien, j'ai des balles qui rebondissent, puis j'ai des balles de verre. Ces balles de verre-là, bien, c'est les essentiels de ma vie. Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Puis il y a eu un moment donné, bien, j'ai échappé une balle de verre. Ça m'a... Tu sais, ça l'a vraiment déstabilisé ma vie personnelle puis professionnelle. Puis je suis tombée dans un processus d'automatisation, de dépersonnalisation dans mon quotidien parce que j'étais en mode survie. Toute l'accumulation, tu sais, on ne peut pas diviser là, le professionnel puis le personnel, c'est tout ensemble, ça. Puis on ne peut pas diviser aussi la vie du proche aidant, de l'usager, puis de qu'est-ce qu'elle est dans son quotidien aussi, ça ne se divise pas. Puis il y a des moments dans ma vie où est-ce que la perte de contrôle, tu sais, il reste que comme infirmière, là, tu arrives sur ton corps de travail, puis on t'annonce que tu changes de charge de travail, d'usager ou de corridor, ça amène du stress. L'imprévisibilité, il y a des fois dans notre vie, quand on est infirmière, on est prêt à assumer l'imprévisibilité, mais il y a un moment donné où est-ce que c'est comme, excusez-moi l'expression, mais too much, là. Puis la nouveauté, hey, dans les derniers temps, là, moi, là, ça fait presque 26 ans, là, j'en ai vu la technologie. Je me suis adaptée. Puis il y a eu des moments là, où est-ce que cette technologie-là, cette nouveauté-là me fait perdre ma confiance en moi. Mon ego a été menacé là, en disant, mon Dieu, je ne serais pas capable d'offrir des techniques de soins en raison de toute cette nouvelle connaissance-là. J'étais fragilisée au niveau professionnel puis personnel. Puis l'impact que ça a eu là, dans ma vie, là, mais j'étais en mode survie. Puis je suis sûre qu'il y a du monde qui doit se reconnaître en ce moment puis qui doit se dire, OK, je fuis certaines situations ou je fonce. Donc, moi, de mon côté, j'ai fui des situations que je ne posais pas des questions aux usagers. Ben, j'avais peur de la réponse, puis de dire...
Le temps que ça allait prendre, oui. Puis l'énergie que ça allait t'amener.
Oui,
là,
c'est ça, en disant, ben, j'aurai pas assez de temps pour écouter qu'est-ce qu'il y a à me dire. Je ferai pas un dépistage parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec cette souffrance-là. Je voulais me fermer les yeux, donc je fuyais certaines situations de soins. Et aussi, je fonçais. Donc, l'irritabilité, l'impulsivité, autant avec mes collègues, mon ton de voix, mon non-verbal... Je suis dans une neurodivergence, là, moi. J'ai un TDAH, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. Fait que, il y a des moments où mon cerveau, il palliait plus. Puis, oh, ben, sur les unités, j'ai blessé des gens là, autour de moi par mon impulsivité, mon irritabilité. Puis, probablement, puis, tu sais, je m'excuse, Marie-Claude, t'es représentante des proches aidants, mais, puis en même temps, tu sais, je demande pardon à tout ça, tu sais, de dire, mon Dieu, j'ai blessé des proches aidants en les ignorant sans m'en rendre compte. Puis des usagers aussi, en étant juste par une technique, tu sais, je vais aller faire une, poser une sonde, je vais aller irriguer une plaie, je vais faire... puis ça, tu sais, ça vide de sens, c'est ça.
Oui. Tu sais, ce que tu me décris là, moi, je l'ai déjà rencontré avec une de mes collègues, puis tu sais, ça m'avait pris tout mon petit change, là, mais je lui ai fait miroiter, justement, cette... ce qu'elle dégageait finalement. Puis c'est parce que je l'avais surpris justement dans une discussion un peu rude avec un usager puis son proche. Puis c'est là que j'ai fait refléter, hey, ça va pas. Puis je pense que parfois, ça a été dur pour elle, là, mais quand on se fait dire ça par quelqu'un d'autre, il faut l'accueillir que clairement ça va pas, là.
Bien, ce que tu as fait comme rôle, puis moi, j'ai eu une personne comme ça dans mon entourage là, qui m'a amenée à prendre conscience. T'es plus la Marie-Pierre que tu étais. Tu réagis plus comme on s'attend de toi. On te reconnaît plus. Donc ça, ça m'a amené une prise de conscience, puis surtout de prendre soin de moi.
Mm-hmm. Ben, j'en arrive là justement. Quand on a pris conscience de l'importance de prendre soin de toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour te ramener un peu sur tes fondements initiaux là, comme infirmière?
Puis, tu sais, je veux rappeler que je parle de mon expérience, hein. Donc, c'est pas une prescription, une baguette magique de guérison. Pas
mais
du tout.
C'est tout un beau processus. Témoignage que, comme tu dis, il y en a plusieurs qui vont se reconnaître.
C'est ce que j'allais dire.
Dans ce témoignage-là.
Oui.
Puis, tu sais, le processus, là, initial, puis c'est ce que Marie-Claude aussi fait en tant que proche aidant, c'est l'introspection. Se poser la question « quel rôle je dois avoir auprès de ma mère? » Bien, c'est qu'elle se pose la question dedans d'elle. Bien, moi, ça a été ça, de revenir à l'essentiel en dedans de moi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aspire? Qu'est-ce qui donne du sens à mon travail? Et d'avoir un courage de prendre le téléphone et d'appeler puis dire « j'ai besoin d'un rendez-vous au programme d'aide aux employés » puis d'avoir un psychologue, un travailleur social qui va venir t'accueillir puis cheminer. Parce que le faire tout seul, bien, tu restes isolé puis tu restes collé sur le mur puis tu rumines et tu fais de l'appréhension puis tu restes dans ta souffrance. Donc, l'humanisation des soins, pour moi, commence à prendre soin de soi puis de pouvoir aller vers les autres pour demander de l'aide. Et l'autre partie que pour moi, qui a été vraiment très aidant, puis qui aujourd'hui m'aide à rester connectée avec qu'est-ce qui donne sens à mon travail, bien, c'est les approches complémentaires. Les approches complémentaires, plusieurs peuvent les explorer, mais pour moi, ça a été la pleine conscience. Ça me permet de me connaître, de me gérer, puis de me développer pour m'auto-régulariser dans mes émotions. Puis après ça, d'être en mesure de savoir, OK, présentement, là, mes pensées, mes émotions, mes sensations physiques, qu'est-ce qu'ils me disent? Puis est-ce que c'est la réalité où mon cerveau me joue des tours? Parce que mon doux, mon cerveau, moi, là, il est très imaginatif pour m'amener à voir le pire, les menaces, puis rester dans une boucle de victimisation ou dans une boucle de souffrance. Fait que ça me permet de prendre une distance puis de voir d'autres aspects de la vie. Là.
Puis pour nos auditeurs, auditrices, là, c'est une formation à l'Université de Sherbrooke. Hein, que tu as suivi, c'était une durée de 8 semaines.
Oui, celui-là, c'est le MBSR. Je vais vous épargner l'acronyme en anglais, mais c'est plutôt c'est la réduction du stress par la pleine conscience en français. Je sais pas, je sais que Marie-Claude, tu connais cet acronyme-là, si
oui,
tu as
oui,
le
oui.
côté plus c'est anglophone.
Mindfulness-based Stress Reduction Program.
Donc, oui, la faculté de médecine offre ce 8 semaines-là de pleine conscience d'accompagnement basé sur John Kabat-Zinn. Et puis, voilà, donc, mais... autre que ça, tu sais, oui, il y a cette formation-là disponible, mais il y a aussi des façons de faire très simples, la pleine conscience. Là, écoutez, moi, j'ai un TDAH. Là. Est-ce que vous pensez que je suis capable d'arrêter de penser? Non, mon cerveau. Mais c'est plus que moi, la pleine conscience m'amène à dire qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Quelle idée, quel lien que je fais? Puis qu'est-ce que ça m'amène de m'amener à un moment ici et maintenant, d'amener mon attention sur quelque chose? Pour puis souvent, le quelque chose, pour moi, c'est la respiration. Puis en plus, je peux vous apprendre quelque chose d'extraordinaire, de données probantes. Respirer, c'est bon pour la santé.
Oh, wow!
C'est-tu extraordinaire? Non, mais c'est vraiment, là, tu sais, ça a été vraiment une façon pour moi, puis ça a un impact sur le système nerveux parasympathique. Donc, voilà. Donc, marcher en pleine conscience, se laver les mains en pleine conscience. À chaque transition, là, entre des chambres d'usagers ou avant d'aller dans une rencontre multi, permettez-vous des moments de respiration profonde, permettez-vous des moments de faire un stop. T'sais. Le stop, là, c'est on prend un moment, là, le sas de décompression pour certains, de dire OK, j'arrête, je prends des grandes respirations profondes. On sollicite le diaphragme, on observe ce qui se passe, puis après ça, on décide de prendre action. Mais moi, ça, c'est ça qui m'aide présentement là, à me connaître, à
puis
me
prendre ce stop-là, ça évite de traîner les frustrations d'un usager à l'autre, par exemple, parce qu'il n'y a rien de pire qu'être cognitivement là, imprégné de frustration pour ne pas être capable de s'ouvrir à l'autre. Fait que là, dans les dernières minutes, on a vraiment parlé plus du volet des défis. Marie-Pierre nous a parlé, elle, comment elle s'y était prise à sa façon et tout. Elle a témoigné. Et là, maintenant, si on veut parler des moments où l'humanisme est bien présent, vous, Mme Poulain, est-ce que vous avez vécu des moments où, malgré ces défis-là, vous avez ressenti l'humanité dans les soins?
Bien, j'en vis chaque fois que je suis auprès de ma mère des moments comme ceux-là. Des fois, ça peut être dans des petits gestes comme comment on m'accueille, quand on me dit bonjour, quand on vient au-devant de moi, quand on prend des nouvelles, quand on me pose des questions, qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe, qu'on s'intéresse à qui ma mère était, par exemple. Des choses aussi où on va m'offrir, mettons, des vêtements adaptés, parce que ma mère porte des vêtements adaptés, mais quand il y en a en trop, on va m'offrir des vêtements adaptés. Beaucoup, tu sais, beaucoup de choses comme ça. Puis j'ai eu l'occasion aussi dernièrement de réfléchir sur ces moments-là puis d'écrire un petit bout de texte. Fait que je vous le lirai, je pense. Mm-hmm. Ça vous donne un petit peu une perspective. Puis c'est vraiment quelque chose qui se répète assez souvent. Là, j'ai changé les noms pour garder la confidentialité, là. Ma mère a presque l'habitude du voyagement entre son fauteuil roulant gériatrique et son lit. Moi aussi. Alexandre aussi. Elle pousse encore parfois des cris, mais elle se calme. On lui parle doucement. Alexandre l'appelle Carmen, pas Madame Poulain. C'est permis. Carmen, maman, on va te coucher. Avec Alexandre, je prends soin d'installer les courroies bleues du lève-personne. Les bleus, pas les rouges. Alexandre me l'a montré. Ma mère tient dans la toile qui s'élève, la balance jusqu'à son lit et la pose. Un lit déjà défait, prêt pour la préparation du coucher, une routine à laquelle ma mère ne s'habitue jamais vraiment. Sa tête appuyée sur mon bras, elle s'impatiente, serre fort mes mains. Carmen, maman, c'est presque fini. Ça finit lorsque sa tête glisse sur l'oreiller, que sa respiration s'adoucit, que ses yeux se ferment à demi. Dans un même mouvement, Alexandre et moi prenons chacun un bout de la couverture au pied du lit. Nous bordons ma mère. Quand j'étais petite, ma mère me bordait aussi. Alors,
c'est vraiment touchant, merci.
Donc, Alexandre, dans votre histoire, c'est un peu comme le préposé au bénéficiaire.
Exactement, puis ça se passe régulièrement, des fois 2-3 fois par semaine. C'est comme ça qu'on le fait.
Donc, en prenant le temps de vous intégrer dans quelque chose qui, somme toute, peut paraître très machinal, mais lorsqu'on prend le temps de prendre le temps, donc faire participer les personnes proches, appeler la personne de la façon qu'elle aime ou qu'elle aimait se faire appeler, ça vient, c'est tout simple, mais ça donne tellement différence.
Ça fait une grande différence.
Ouais.
Toi, Marie-Pierre, qu'est-ce que dans ta pratique ou ton expérience te permet de garder vivante cette dimension humaine-là des soins? Est-ce qu'il y a des gestes ou des postures, des intentions qui font une différence pour toi?
Les gestes, la posture, pour moi, depuis que j'ai échappé ma balle de verre, j'ai pu comprendre que je suis devenue infirmière parce que j'ai besoin du contact humain. Moi, j'ai besoin de sentir que je fais une différence. J'ai besoin de pouvoir avoir un regard qui dit « je te vois, puis t'es important pour moi ». Un toucher, un non-verbal et surtout l'écoute. Bon, on s'entend, l'écoute pour moi restera toujours un défi parce que j'ai toujours quelque chose à dire, à rebondir. Parfois, il faut que je respire, puis je me dis « ah, oui ». Il y a quelque chose à dire, il y a son histoire, puis je deviens en mode plus curieuse. Puis, je valide ma compréhension, puis parfois, je veux l'informer, l'enseigner ou l'engager dans ses aspirations. Pour moi, c'est comme ça, puis ça prend pas deux heures, là, ce contact-là, hein, Marc-Claude? Puis moi, je le vis, ça, ce regard-là, c'est quelques secondes, le non-verbal, une ouverture, un bienvenu, c'est le début de ce lien-là. Et après ça, je suis plus disposée à écouter profondément. Et ce que ça m'amène, c'est que souvent, j'ai même plus besoin de poser des questions parce que j'ai toutes les réponses. Facilement, en étant connectée rapidement avec l'usager, ses proches, le proche aidant, puis même avec mes collègues qui vont arriver puis ils vont venir me nommer des choses super rapides des fois, bien juste d'avoir une posture moi-même d'ouverture puis plus calme, on dirait que je deviens, j'influence l'énergie sur l'unité ou dans la chambre. Puis ça, moi, ça me fait du bien. Moi, j'appelle ça, c'est l'art de soigner. Pour moi, ça me permet d'être humaine puis d'oser la créativité, cette créativité-là, partagée en collaboration, où on va créer un soin comme Alexandre. Puis toi, Marie-Claude, dans cette routine-là de coucher, bien, c'est de créer ce soin-là. C'est l'art de créer, puis c'est pas dans une to-do list, tu sais, qu'on retrouve ça. Il faut prendre le temps de voir, pour moi, qu'est-ce qui donne du sens, puis c'est vraiment de... Ouais, ce contact-là simple, si je ne l'ai pas, moi, dans ma journée, bien, je me sens vide. Je ne me sens pas ressourcée. Je ne sens pas que j'étais sur mon X. Puis ça ne demande pas beaucoup de temps, cette connexion-là, qui me nourrit positivement, puis que je peux faire une reconnaissance d'être infirmière.
Tu sais, on comprend, on le sait que l'humanisation des soins, parfois, ça va être mise à l'épreuve, surtout dans le contexte actuel au sein du réseau de la santé. Mais j'aimerais ça quand même qu'on tente de réfléchir à qu'est-ce qui peut nous éloigner de cette intention-là première, qui est d'aider l'autre au départ, hein, prendre soin. Donc, je me revire vers vous, Madame Poulain. Là, selon votre vision de la prochaine danse, qu'est-ce qui peut nous éloigner de notre intention première d'être en relation avec les autres?
Mais selon moi, c'est la première chose, c'est la perte de sens. C'est quand, dans le fond, entre tes aspirations, entre le sentiment de savoir comment les choses doivent être faites pour qu'elles soient bien faites, puis la façon dont tu te retrouves à les faire au quotidien, quand il y a une incohérence entre les deux, quand il y a un écart entre les deux, bien, à un moment donné, on perd le sens. On ne sait plus pourquoi on fait ça.
On se décourage, puis on n'a comme plus nécessairement envie de donner tout ce qu'on aurait à donner. C'est un peu ça.
Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est aussi le fait qu'on en vient à se protéger aussi. Parce que comme on est en situation d'incohérence, il faut quelque part qu'on se protège. Puis ça aussi fait, en même temps, malheureusement, en même temps, fait qu'on perd du sens aussi. Puis c'est des fois aussi les croyances qu'on a par rapport au fait, par exemple, que ça prend beaucoup de temps. quand c'est pas vrai que ça prend tout le temps beaucoup de temps. Moi, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec le soin, là, ben Alexandre, ça y prend le même temps à le faire, le soin. On gagne pas, on perd pas, on gagne pas de temps, là. On le fait de façon différente, par exemple.
Exact.
C'est dans ce lien-là. Fait que, tu sais, la croyance que ça demande beaucoup de temps, ben non, ça demande pas beaucoup de temps. Puis des fois, la croyance aussi que tout le monde est... que c'est spontané, la bienveillance. C'est vrai que tout le monde est de bonne volonté, mais c'est pas vrai qu'on est tous aussi habiles à faire preuve de bienveillance puis à faire en sorte que les autres le sentent aussi.
Oui. J'avais déjà une collègue qui travaille pour l'expérience usagée qui parle toujours de la notion du 30 à 60 secondes. Là. C'est-à-dire, lorsqu'une question t'est posée, de revirer la question en disant « Mais vous, qu'en pensez-vous? » Puis d'attendre, tu sais, fait que le 30 à 60 secondes qu'il va prendre pour répondre, ça va peut-être au final te faire sauver beaucoup plus de temps. Au final.
T'sais. C'est comme cette croyance-là que la performance est vraiment la priorité, c'est ça. Donc, mais tu sais, que la bienveillance ne vient pas après. Puis toi, Marie-Pierre, là, comme infirmière, avec tes échanges jusqu'à maintenant, je pense que tu es d'accord avec la vision de Marie-Claude, mais y a-t-il d'autres choses que tu aimerais rajouter par rapport à. En fait, c'est ça. Est-ce que ça prend vraiment plus de temps? De prendre cette posture-là de bienveillance puis cet art de soigner-là que tu parlais précédemment?
Ça prend pas plus de temps. C'est juste que le résultat, il va être plus rapide. Donc, au lieu de faire tout seul, de mettre tout sur nos épaules comme professionnels, puis Marie-Claude l'a nommé en disant « Tout est géré, moi et où ma place? » Mais tout est géré, mais avec des professionnels qui ont l'impression de manquer de temps, quand que tu peux prendre un moment de recul puis de voir comment on peut faire différemment pour arriver au même résultat en étant moins épuisé ou en étant moins énergivore, mais d'aller chercher le potentiel de chacun. Puis, où est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que quand que j'ai échappé ma balle de verre, ce que j'ai compris, puis plusieurs études que j'ai, ben, des livres plutôt que j'ai lus, c'est Daniel Goleman, puis La loi du bon samaritain, qui démontre que si on a l'impression de manquer de temps, l'empathie ne peut pas naître. Fait que si en tant que professionnel en soins, notre grande qualité, c'est l'empathie, mais qu'on vient neutraliser ça par le stress, l'impression de manquer de temps. Comment je peux voir l'autre? Comment je peux être en connexion avec la souffrance de l'autre pour après ça décider d'aller vers l'humanisation ou la compassion, moi que j'appelle, d'aller agir pour et avec l'usager puis ses proches, de créer cet art de soigner-là? Bien, je me pose la question. Donc, ce qui vient mettre vraiment pour moi la lumière qu'il faut prendre soin de soi pour prendre du recul, une distance sur la façon qu'on voit la vie, puis la perte de sens qui est nommée, bien, elle arrive très rapidement quand on est comme un robot, puis surtout que on a choisi cette profession-là pourquoi? On a choisi cette profession-là pour aider les autres, pour être en connexion puis faire la différence. Mais on embarque vite dans cette dynamique-là, puis...
Bien, c'est là que je veux t'emmener, Marie-Pierre, ouais. Parce que maintenant, on a déjà échangé, toi puis moi, concernant ton analogie avec la ruche d'abeilles, ouais. Qui fait qu'on devient un peu comme très, très robotisé, là, protocolisé dans tout ce qu'on fait. Puis là, tu me parlais du livre de Sonia Lupien, qui est le stress au travail versus le stress du travail. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu de cette théorie-là. Là.
Bien, moi, c'est une compréhension personnelle. Là. Je vous invite à aller lire vous-même et à essayer de mieux comprendre toutes les informations spécifiques. La théorie de la ruche, c'est qu'il y a différentes façons de travailler. Là. Il y a le travail en surface puis le travail profond. Puis le travail en surface, c'est qu'il répond à un besoin d'énergie, mais un besoin aussi de sentiment d'accomplissement rapide.
Donc, les fameuses checklists.
Les checklists deviennent un mode de « Hey, je viens de diminuer ma tâche de 20 à sais, à 10, wow, good job. Mes courriels, j'en ai 150, je finis la journée.
Il en reste 15.
Oui, wow, OK.
C'est le sentiment de performance relié à ça.
Oui, mais aussi un sentiment que j'agis sur des situations urgentes versus des situations qui sont importantes. Parce que les situations urgentes, dans notre quotidien, on doit dealer avec ça. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important? Puis dans le urgent, bien, ça ne devrait pas demander beaucoup de temps. Donc, checklist, une technique.
Un prélèvement sanguin, prélèvement faire un médicament sanguin, donné.
Oui.
Check, check, check.
C'est ça. Puis ça, ce travail-là, en surface, ce qu'il nomme, c'est qu'on transfère de l'information. On n'est pas en mode de créer de l'information.
Oui. On en parlait justement dans un balado précédemment avec Mme Martel.
Au niveau de la communication, c'est
exactement
ça?
Oui.
Donc, tandis que le travail en profondeur, bien, ça demande une connexion, ça demande une concentration, puis ça nous permet une créativité. Puis c'est là, pour moi, ça a donné tout son sens, parce que pour moi, ce travail en profondeur-là, c'est lorsque je fais ma démarche de soins. Quand que, OK, j'ai une collecte de données, bien, l'usager, le proche aidant, Marie-Claude, je suis certaine qu'elle va faire un plaisir de me donner des données que j'ai pas, tu sais, pour offrir les meilleurs soins, puis pouvoir échanger ensemble pour savoir quelle intervention serait le mieux, puis de voir par la suite, est-ce qu'il y a un impact, est-ce que on a atteint notre objectif ensemble. Bien, ça, c'est un travail en profondeur, puis oui, ça demande un temps, mais ce temps-là qu'on prend, là, on vit un sentiment de plus profond de sens parce qu'on s'est investi, mais aussi, ce qui est démontré, là, ce que Sonia Lupien nomme, c'est qu'on vient stimuler le parasympathique pendant qu'on est sur notre X, pendant qu'on est en hyper-concentration, en connexion humaine, ça vient mettre un moment de détente, de venir contrebalancer nos hormones de stress, de performance. Mais c'est sûr que c'est un travail quotidien, là. Je reviens avec les balles, on jongle avec ce qui est urgent, ce qui est important, mais il faut se permettre ce travail-là profond. Puis, tu sais, ça demande plus de temps. Oui. On s'entend, là, je veux dire, c'est pas 2 heures de réflexion sur l'analyse d'une situation, mais ça met en avant toutes mes compétences, les connaissances que je peux mettre en lien. Puis ça permet aussi à Marc-Claude, tu sais, la prochaine aidante, de pouvoir aussi faire ces liens-là puis se sentir valorisé.
Oui. Bien, justement, Marie-Claude, cette expérience-là, là, avec l'impression de la ruche, là, où est-ce que tout va vite et tout ça, est-ce que tu as déjà ressenti ça? Puis quel impact ça a eu sur toi ou encore sur ta mère?
Oui, ben, ça m'est arrivé à quelques reprises. Là, quand j'entends la question, je pense à un événement en particulier qui va un peu dans le sens de ce que Marie-Pierre, tu disais aussi, on peut faire des liens facilement. Là. Ma mère est passée de la ressource intermédiaire en CHSLD. J'ai su comme une couple de semaines après, quelque chose comme ça, que c'était très difficile de lui donner son bain. Qu'elle était agressive, elle criait, etc. Puis c'est vraiment pas facile de lui donner son bain. Assez étrangement, moi, cette fois-là, j'avais pas grand-chose à dire parce que c'était la première fois que j'entendais dire que ma mère voulait pas prendre son bain.
Alors qu'elle était déjà en résidence, là.
Oui, okay. elle avait été 2 années auparavant en ressources intermédiaires où on y avait donné son bain régulièrement, puis moi, j'avais jamais eu écho de ça. Fait que là, j'ai comme commencé à poser des questions, mais à droite, à gauche, aux préposés sur lesquels je tombais une journée ou une autre. Puis, à un moment donné, je suis même allée observer. Ben, en fait, j'ai observé, mais je voulais aller rassurer ma mère. Fait que j'ai assisté au bain. Ouais. Puis, en assistant au bain, à quelques reprises, avec des intervenants différents, des soignants différents, je me suis aperçue qu'il y avait certaines, tu sais, qu'il y avait certaines pratiques qui étaient où ça allait bien, où quand c'était fait avec douceur, ça allait assez bien. Mais il y avait d'autres fois où les gestes étaient brusques, étaient répétitifs. Puis même s'ils ne maltraitaient pas ma mère, la façon dont tu faisais les choses, ça l'agressait. Puis, tu sais, fait que là, je comprenais moi un petit peu plus. Mais tu sais, il fallait tout que... que j'essaie de rattacher ces ficelles-là ensemble. Quand si on avait pris la façon dont Marie-Pierre décrivait tantôt, on aurait posé les questions dès le départ. On aurait exploré ce sujet-là dès le départ. Puis on aurait évité de lui donner des bains qui la traumatisent davantage, puis tu sais, qui font en sorte que ça augmente tout le temps.
Effectivement. Donc, tu sais, c'est comme de dire tous ces gestes-là, tu sais, il y a quelqu'un, donc, tu sais, dans les professionnels, qu'on parlait tantôt de checklist, on parlait, tu sais, puis je fais le parallèle aussi avec Marie-Pierre, quand tu parlais, bien, toi, à un moment dans ta pratique, un épisode, il y a eu une période où est-ce que, justement, peut-être que tu t'avais perdu un petit peu de vue cette importance-là, là, de dire, bien là, c'est pas juste check, on a fait un bain, bien, ce bain-là est important pour cette patiente-là, mais... Moi, je me questionne en même temps, est-ce que c'est si compliqué que ça d'humaniser les soins, finalement? Marie-Claude, selon ton expérience, puis que tu viens de nous raconter, qu'est-ce qui aurait pu être mis en place ou fait autrement pour que tu puisses réellement vivre des soins empreints d'humanité, d'humanisme avec ta mère?
Mais dans cet exemple-là, en fait, quand elle a quitté le CHSLD puis qu'elle est allée à la maison des aînés, moi, ce que j'ai fait d'emblée à la première rencontre, c'est de leur expliquer cette situation-là. Puis à ce moment-là, on a regardé ensemble c'était quoi les stratégies qui pouvaient être mises en place. Puis c'est devenu une préoccupation commune. Tu sais, ça fait en sorte que les gens s'outillent, tu sais, davantage, que c'est plus agréable, puis que pour elle, puis que moi, je m'inquiète pas aussi. Puis ça fait en sorte qu'on partage cette préoccupation-là. Tu sais.
Exactement, parce différence. Que je pense pas que, tu sais, on le sait, dans tous les soignants, tu sais, si on a choisi cette profession-là, quelle qu'elle soit dans le réseau de la santé, c'est pour une raison, c'est parce qu'on a à cœur le bien-être des gens, tout ouais. Ça. Mais si à un moment donné, dans notre pratique, on l'a peut-être perdu de vue ou on se sent submergé par toute l'imprévisibilité dont Marie-Pierre nous parlait, par toute, des fois, notre égo menacé, mais je pense que c'est important d'être à l'écoute de la proche aidante ou des proches aidants qui peuvent nous remettre des fois juste... Hey, c'est vrai, tu sais, des petits gestes qui vont faire la différence puis de nous remettre un petit peu cette perspective-là.
Donc, voulais-tu rajouter quelque chose, Marie-Pierre?
Oui, sur l'aspect qu'on appelle l'affairement comme marqueur de productivité. Tu sais, de se valoriser puis de pouvoir évaluer un professionnel en soins par juste le fait qu'il dit qu'il est occupé puis qui vient jamais s'asseoir au poste, puis qu'il est toujours en action, puis en train de soit de transférer des informations ou de compléter sa to-do list, ben c'est quand même humain parce qu'il y a une culture de pouvoir évaluer un employé par le nombre de tâches qu'il fait. T'sais, on va souvent entendre, celle-là, cette professionnelle-là, là, est vraiment bonne, a tout fait qu'est-ce qu'on lui avait demandé durant la journée. Elle n'a pas déplacé certaines tâches pour le corps suivant. Mais je pense qu'il faut aussi changer cette culture-là. C'est pas parce que tu remets à plus tard certaines tâches que tu n'es pas un professionnel qui offre des soins de qualité et sécuritaire. Fait qu'il y a quand même cette réflexion-là à avoir. Comment moi, je vis cette valorisation-là de me sentir très occupée? Est-ce que je me valorise par ça? Comment je vis le fait de pouvoir partager, collaborer avec mes collègues en disant, écoute, là, en ce moment, ma priorité, c'est d'aller explorer. Marie-Claude, elle vient d'arriver pour sa mère, pour le bain. Je veux voir comment ça se passe. Est-ce que tu peux aller me faire aller voir telle chose? Ce partage-là, ce travail d'équipe-là, puis certaines de nos collègues aussi appellent ça le leadership partagé, là. Mais c'est pas juste des pelletages de nuages, c'est vraiment concret. Moi, je le vis, ce côté-là, que je trouve vraiment important. Ça nous ramène à la pertinence des soins.
Puis comme tu l'as dit, c'est tout qu'un changement de culture aussi. Fait que, pour les gens qui nous écoutent, notamment les gestionnaires aussi, là, de vous conscientiser là, donc, à tout ça.
Soins sécuritaires, déontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme professionnel en soins infirmiers, d'aborder le sujet des approches complémentaires ou dites alternatives de soins, comme par exemple la méditation, la musicothérapie, le Reiki ou la digitoponcture? L'OEQ a émis en 2023 un cadre de référence sur les obligations professionnelles à l'égard de ces approches complémentaires. Il souligne que l'usage ou la recommandation de ces approches ne sont pas interdits à condition que cela soit fait de manière conjointe à l'exercice de la profession infirmière avec rigueur, compétence et transparence envers la clientèle. Par exemple, si un usager utilise déjà une approche complémentaire, vous devez en tenir compte, évaluer la situation et vérifier les interactions possibles avec les soins conventionnels. Vous devez aussi informer les usagers des risques et bénéfices perçus. Vous ne pouvez en aucun cas laisser croire que ces approches sont un remplacement des soins conventionnels. Les approches alternatives sont complémentaires et jamais un substitut. Assurez-vous d'agir avec compétence et rigueur. Pour ce, informez-vous sur ces approches complémentaires. Évaluez bien l'état de la santé de la personne, ses motivations, ses croyances. Vérifiez les risques d'interaction. Intégrez ces éléments au plan de soins. Informez l'équipe interdisciplinaire à cet effet et documentez vos échanges.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Non-binarité et fluidité de genre. La non-binarité et la fluidité de genre sont des concepts liés à l'identité de genre qui va au-delà du binaire masculin-féminin traditionnel. Une personne non-binaire ne se reconnaît pas exclusivement dans les catégories homme ou femme. Elle peut se sentir entre les deux ou en dehors de ces catégories. La fluidité de genre, quant à elle, désigne une identité de genre qui peut changer au fil du temps selon les contextes. Par exemple, une personne non-binaire pourrait être quelqu'un qui ne se sent ni totalement homme, ni totalement femme, et qui préfère utiliser des pronoms neutres comme « yel » ou « they ». Cette personne pourrait choisir un prénom qui ne correspond pas typiquement à un genre, ou préférer un style vestimentaire qui n'est pas traditionnellement masculin ou féminin. Ces identités remettent en question les normes de genre traditionnelles et soulignent l'importance de respecter chaque individu dans son expérience unique du genre. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du SUS de l'Estrichus. Merci.
Les échanges d'aujourd'hui nous rappellent que l'humanisation des soins, ça ne dépend pas uniquement du système, mais aussi de notre posture, de nos choix et de nos interventions quotidiennes.
Oui, puis ce qu'on doit retenir, selon moi, de tout ça, c'est que l'humanisation des soins, ça ne repose pas nécessairement sur de longues heures d'écoute, on en a parlé aujourd'hui, ou encore des ressources extraordinaires. C'est souvent des petits gestes les plus simples, un regard qui dit « tu es la bienvenue », un toucher sincère qui reconnaît la charge mentale partagée, hein, un et l'autre. Une question aussi qui est posée avec authenticité, aussi simple que « comment allez-vous aujourd'hui », suivie d'une réelle attention à la réponse.
De plus, la communication, c'est à la fois le verbal et le non-verbal qui crée un lien de confiance puis une relation pleinement humaine. Cette connexion-là, ça permet aux professionnels d'adopter une posture d'ouverture puis de curiosité à l'autre. Pour que ça soit possible, il doit aussi prendre soin de lui-même. Donc, le soignant doit prendre soin de lui-même. Ce chemin intérieur, ça lui permet de rencontrer l'autre avec humanité.
Marie-Pierre, je crois que tu avais un petit message que tu voulais porter à l'attention des auditeurs, auditrices, en lien avec toi-même, ton expérience aussi.
Bien, pour moi, l'humanisation des soins, ça, c'est ce qui donne le sens à mon travail. C'est pas facile. Il reste que c'est un travail personnel, professionnel, de développer, de se comprendre, de vraiment arriver à se connecter à soi-même pour pouvoir se connecter aux autres. Ça se peut que ce balado-là vienne bouleverser, faire prendre conscience d'une certaine souffrance ou une douleur ou des questions. Moi, je ne veux pas que vous restiez toute seule avec ces questions-là ou cette souffrance-là. Osez appeler au programme d'aide aux employés ou le 811 option 2, qui est l'info santé psychosociale, qui est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ils sont là pour vous écouter puis de pouvoir vous aider à cheminer pour que vous puissiez redevenir vous-même en toute humanité.
Puis comme tu nous as dit tantôt aussi, hein, si on ressent que on devient comme... je vais dire facilement dérangé, facilement irritable, c'est que parfois, il faut se poser les bonnes questions puis il faut prendre un temps d'arrêt. Puis des fois, d'en parler avec quelqu'un d'externe, ça peut nous aider.
Puis Marc-Claude, je ne sais pas si tu aimerais nous partager peut-être un petit mot de la fin, peut-être un message clé que tu aimerais qu'on retienne?
Ben, en fait, moi, je dirais que l'humanisation des soins, ça commence par être vu, être entendu, puis être reconnu.
Donc, c'est ce qui termine ce tout dernier épisode du balado Savoir et stéthoscope. Dans notre prochain épisode, il va être question d'un épisode un peu spécial, c'est-à-dire une première pour Savoir et stéthoscope, où on va analyser une situation du soin qui va venir mettre en jeu la qualité et la sécurité des soins, un peu sous la forme du balado le True Crime. Alors, restez à l'écoute. On souhaite, bien sûr, poursuivre le projet en 2026. On a même une multitude d'idées et de sujets invités en tête. Donc, on prend la chance quand même de vous dire
à la prochaine.
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEPHAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et stéthoscope.